Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mina Afezi, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Vincent Ronet, une émission enregistrée avant-hier. La situation sécuritaire dans le pays ne s'améliore pas, notamment pour les étrangers. Dans ces conditions, tout projet de voyage touristique en Afghanistan reste proscrit. Voilà ce qu'on peut lire sur le site du ministère français des Affaires étrangères, à la rubrique « Conseils aux voyageurs ». Et l'actualité est là pour témoigner de la dangerosité du pays, y compris dans sa capitale, puisque vendredi dernier, un attentat dans un restaurant du centre de Kaboul a fait 21 morts, parmi lesquels une majorité d'expatriés. Alors ce n'est pas faire preuve d'un pessimisme exagéré que de craindre la multiplication de ce genre d'attaques dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est que 2014 s'annonce comme une année cruciale, donc dangereuse pour les Afghans. Il y aura d'abord au mois d'avril l'élection présidentielle, la campagne officielle démarre ce week-end. 11 candidats pour succéder à Hamid Karzai, lequel est interdit par la Constitution de briguer un troisième mandat. Il y aura ensuite, et peut-être surtout d'ici au 31 décembre, le retrait des forces de l'OTAN, autrement dit, la fin des opérations engagées au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Ils sont encore 57 000 soldats dans ce pays à qui la communauté internationale avait promis la paix et la reconstruction après la chute des talibans. La paix, les Afghans en sont décidément bien loin aujourd'hui. Les talibans n'ont peut-être jamais été aussi forts. Alors Afghanistan, tout ça pour ça, c'est notre sujet du jour. Trois invités pour discuter de la situation dans ce pays, à commencer par vous, Ahmad Majour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'université de Rouen. Depuis un an, vous êtes conseiller spécial du Parlement afghan pour l'évaluation des politiques publiques, mais c'est au titre de chercheur que vous vous exprimez ce soir et vous avez publié en juin dernier aux éditions L'Harmattan « L'Afghanistan en transition, une approche politique ». Pour discuter avec vous ce soir, Jean Damécourt, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France en Afghanistan, vous avez été en poste d'avril 2008 à janvier 2011. Vous avez également publié un ouvrage qui relate cette expérience. C'était en janvier dernier, 2013, donc chez Robert Laffont, « Diplomate en guerre à Kaboul, les coulisses de l'engagement de la France ». Et puis notre troisième invité, Raphaël Kraft, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, documentariste, notamment pour France Culture. En 2009, vous vous êtes engagé dans l'armée française pour créer une radio en langue pachtoune à destination des populations de la vallée de Surobi, c'est à l'est de Kaboul. Vous avez tiré de cette expérience un livre publié en septembre dernier, me semble-t-il, chez Buchet-Chastel, Captain Teacher, une radio communautaire en Afghanistan. Alors on a intitulé cette émission, Raphaël Kraft, Afghanistan, tout ça pour ça. Est-ce que c'est ce que vous vous êtes dit lorsque, après avoir monté cette radio, après en avoir fait un outil de lien social, comme on dit ici, pour la population afghane, l'armée française, à la faveur d'un changement dans la hiérarchie, a repris en main ce média et a finalement sonné la mort de cette expérience?
Oui, aujourd'hui j'éprouve un peu de tristesse, pas d'amertume, mais des regrets certainement, puisque cette radio a été créée à l'initiative du colonel Durieux, du 2e régiment étranger d'infanterie, la Légion étrangère, auquel j'appartenais. Et ma mission sur place était clairement de créer une radio dite communautaire, c'est-à-dire qui ne soit pas une radio de propagande ou qui ne diffuse pas des messages émanant de la coalition internationale. Et c'était devenu vite, une institution dans la région, puisque nous avions un bassin d'auditeurs de 140 000 habitants. La bande FM était vierge dans la vallée de Surobi. Nous avions également pour auditeurs tout ce trafic automobile qui passe de la frontière pakistanaise sur le Khyber, qui va jusqu'à Kaboul en passant par Jalalabad. Et à mon départ, et surtout au départ de la Légion étrangère, l'armée française a décidé de transformer cette radio en une radio dite de propagande, doucement, malgré les difficultés sécuritaires que ça pouvait impliquer pour ces artisans afghans.
Donc il ne s'agissait plus tellement de donner la parole aux Afghans, mais plutôt de diffuser la bonne parole de la l'armée française notamment et de la coalition internationale.
Voilà, c'est ça. On appelle ça des messages, poliment. Bref, de faire de la contre-insurrection à travers la radio.
Madame Ajour, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, lors de vos séjours en Afghanistan, d'écouter cette radio, en tout cas d'en entendre parler, mais est-ce que vous diriez que ce qui s'est passé, ce que vient de relater Raphaël Kraft, on crée une radio pour les Afghans et puis ensuite finalement on la récupère pour en faire un outil de propagande, est-ce que ça n'est pas symptomatique de ce qu'aura été pendant de nombreuses années la stratégie de la coalition internationale dans ce pays, c'est-à-dire essayer de vendre un modèle extérieur plutôt que d'écouter ce que les Afghans avaient à dire?
En tout cas, l'intervention de la coalition internationale en Afghanistan avait besoin pour éclairer le message ou l'objectif de la présence de la communauté internationale en Afghanistan. Ce que n'est pas bien transmis aux Afghans. Certains Afghans pensent que voilà, ils sont venus pour occuper notre pays sans savoir vrai message pour le développement, pour le changement d'une société traditionnelle. Surtout que je suis pour le passage de la tradition vers la modernité. Ça, c'est très, très important. Mais étant donné que ce radio était un local dans une région assez spécial avec la présence de troupes françaises là-bas. Je ne crois pas, le message n'est pas passé partout dans l'ensemble du territoire afghan.
Mais ce que vous dites dans votre ouvrage, hein, Madame Ajour, c'est qu'il aurait peut-être fallu que dès le début, on écoute davantage ce qu'étaient les revendications, ou en tout cas si ce n'est les revendications, les attentes de la population afghane, plutôt que de vouloir imposer un modèle, alors notamment un modèle démocratique, qui n'était sans doute pas adapté aux traditions du pays.
Moi, je crois que la démocratie, avant tout, il a besoin d'une culture dans la société, des éléments culturels qui favorisent la mise en place de la démocratie comme un régime politique dans un pays comme l'Afghanistan. Le modèle imposé, ça ne marche pas, parce que les valeurs d'identité d'un pays comme l'Afghanistan ne partagent pas exactement tous les éléments de la démocratie, de la culture, de la démocratie qui existent en Europe ou en Occident. Étant donné que maintenant, on ne parle pas de la démocratie, on doit parler des démocraties. Pour chaque pays, pour chaque société, on doit adapter la démocratie, les valeurs de la démocratie avec la situation pour qu'on on prend le résultat positif de notre progrès politique dans un pays comme l'Afghanistan.
Jean Damécourt, vous qui, je le rappelle, donc, avez été ambassadeur de France en Afghanistan pendant 3 ans, vous arrivez d'ailleurs à un moment donné où la stratégie est modifiée, c'est la contre-insurrection, c'est-à-dire que 7 ans après l'intervention de la coalition internationale, on va essayer, plutôt que de lutter uniquement contre le terrorisme, de gagner les cœurs et les esprits. C'était la formule qui était utilisée. Est-ce que vous partagez ce constat d'une erreur, peut-être, de stratégie, au moins dans les premières années, c'est-à-dire vouloir imposer un modèle qui n'est pas adapté à la réalité afghane ?
Je crois que, si vous voulez, qu'il faut se rappeler l'objectif des Américains quand ils sont intervenus et que leurs alliés, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et quelques autres sont venus à leur secours. C'était d'abord en réaction à l'attentat djihadiste contre les tours de Manhattan. C'est une réaction sécuritaire. Et dès le début, les Américains ont eu une politique en Afghanistan qui était une politique sécuritaire. L'essentiel de leurs forces ont été mis sous les ordres d'un commandement séparé, qui était le commandement Liberté Immuable. Le reste, très rapidement, s'est développé au sein de l'OTAN, mais c'était une minorité des forces américaines. Il y avait une dualité de commandement. Et l'objectif américain était de pourchasser ce qu'ils appelaient les terroristes.
Stratégie sécuritaire, mais très vite, il y a quand même une conférence internationale, la conférence de Bonn, fin 2011, qui prévoit la reconstruction du pays. Ça veut dire que c'était des mots qui n'avaient pas vraiment de sens ?
Non, c'est pas ça, mais je pense que c'était pas la stratégie américaine. La stratégie américaine était réellement une stratégie d'élimination du djihadisme et des forces terroristes, avec d'ailleurs une assimilation entre les talibans et les terroristes qui était quand même un peu courte et un peu fâcheuse. Et c'est seulement, comme vous l'avez dit, avec la stratégie de contre-insurrection intervenue beaucoup plus tard, en 2009, que d'abord ils ont mis un niveau de force qui était compatible avec leurs ambitions et qu'ils ont commencé à réfléchir de manière intelligente, sous l'influence d'ailleurs de tacticiens français. Ils ont beaucoup cité Galoula, Lyautey, etc. Enfin, c'était la manière de réussir dans un pays aussi complexe, à la structure sociale aussi complexe que celle de l'Afghanistan.
Raphaël Kraft, vous évoquiez tout à l'heure la déception qu'avait pu être la vôtre au moment de la reprise en main de cette radio sur Obi par l'armée française. Est-ce que, pour revenir sur cette notion d'amertume, du point de vue des Afghans, puisque la radio, je le répète, elle était à leur destination, puis il y avait un système de libre antenne parfois qui leur permettait en tout cas de s'exprimer sur les ondes. Est-ce qu'il y avait aussi une forme d'amertume qui s'exprimait de la part des Afghans, disant, ben voilà, on attendait beaucoup peut-être, enfin, je ne sais pas si on attendait beaucoup, s'ils attendaient beaucoup de l'intervention en 2001, et est-ce qu'au regard de ce qui était attendu, les espoirs ont été déçus? Est-ce que vous le perceviez, ça?
On avait effectivement énormément d'auditeurs qui téléphonaient à la radio. Ensuite, j'ai fait installer une boîte aux lettres dans la ville de Surobi, laquelle n'a jamais été vandalisée. Les Afghans savaient que cette radio émettait depuis la base de Tora, de l'armée française. Et petit à petit, on a commencé clairement à avoir un auditoire composé justement d'insurgés qui nous écoutaient en cachette parce qu'on avait de la musique, etc., etc. Je n'ai pas, à travers les témoignages d'auditeurs, ressenti une quelconque amertume, sauf peut-être de la part de la jeunesse afghane, laquelle a vraiment profité de la création de Radio Surobi pour pouvoir s'exprimer, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans la région de Surobi, soumise à des traditions lourdes, à une chape communautaire très importante. Et ça a été véritablement un échappatoire pour eux que de pouvoir exprimer leurs amours interdites, que de pouvoir exprimer leurs attentes, justement, d'une société peut-être un petit peu plus occidentalisée, ou en tous les cas où une place est faite à l'Internet, à la liberté d'expression et ce genre de choses. Et Radio Surobi, au moins pendant le mandat de la Légion étrangère, a accompagné cela pendant 6 mois, puisque nous avons créé la Choura des poètes, qui a permis aux poètes de Surobi et de Jalalabad de venir s'exprimer régulièrement à l'antenne, la Choura du théâtre. Et on a créé un feuilleton radiophonique qui était animé par cette Choura du théâtre, où justement s'exprimaient toutes les attentes de cette jeunesse afghane. Donc l'amertume, oui, à travers les discussions que je pouvais avoir au sein de l'équipe des Afghans, elle était présente. En même temps, Aziz Rahman, qui est toujours le directeur de la radio, rappelait à tout un chacun qu'en Surobi, en 2001, il y avait 2 écoles.
Voilà, et qu'aujourd'hui, c'est un dialogue, il y en a plus d'une vingtaine. Ça tombe bien parce que je l'avais noté justement. C'était un des extraits que j'avais noté de votre livre. C'est ce qu'il vous dit, vous relatez un des dialogues que vous avez avec lui. C'est sûr que nous vivons des temps difficiles. Donc là, on est en 2009. Mais je regarde les choses de façon pragmatique. Il y avait 2 écoles à Surobi en 2002. Il y en a plus de 20 aujourd'hui. Il ne faut pas être ingrat. Jean-Dan Écourt.
Je voulais juste rappeler quelque chose, mais qui va dans le sens de ce que vous venez de dire l'un et l'autre, qui est que j'ai bien connu le colonel Durieux, j'ai bien connu Radio Surobi, j'ai même visité cette radio, j'ai rencontré des gens, j'ai entendu et vu les traductions des dialogues qu'il pouvait y avoir. Il n'y a pas de doute que c'était quelque chose de très bien. Mais tout ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est que, c'est assez bizarre, mais l'Afghanistan est un des rares pays islamiques dans lequel il y a une grande liberté d'expression dans les médias, et notamment une concurrence réelle des radios, de la presse écrite, de la télévision. Alors bien sûr, avec, comme toujours, des...
Grâce à l'intervention internationale, c'est quelque chose qui était antérieur à ça.
C'est essentiellement l'intervention internationale, mais c'est surtout les Américains. Ce sont les Américains qui ont financé des programmes, qui ont d'ailleurs été exécutés en grande partie par des Français, assez curieusement, par une équipe de Français, mais qui ont financé ces programmes, qui ont permis de mettre en place une grande liberté d'expression en Afghanistan, auquel les Afghans tiennent.
C'est au moins un des acquis de ces 12 dernières années. Ahmad Majour, on va aller examiner ce qui manque encore, et Dieu sait qu'il manque encore beaucoup de choses pour que l'Afghanistan soit un pays stable, mais la liberté d'expression, ça c'est quelque chose qui a été gagné par les Afghans à partir de 2001.
Sans doute, la liberté d'expression, le succès dans les médias, ça c'est très très important, surtout un progrès remarquable dans le domaine de l'éducation et la formation, surtout la liberté de parole, l'éducation des femmes et des filles et le travail des femmes à l'extérieur de la maison, ça c'est du succès, on ne peut pas fermer les yeux jamais. Mais il y a d'autres éléments qu'on n'a pas encore réussi, la question de sécuriser une grande partie du pays. On n'a pas réussi d'éliminer le Taliban. On n'a pas réussi de pacifier le pays l'ensemble. La question de... On n'a pas jugé un seul criminel de guerre pendant les 11 années de présence de la coalition internationale en Afghanistan. Par contre, on a collaboré avec eux. Ils ont resté au pouvoir comme ministre, comme conseiller au gouvernement afghan. La dernière question, c'est très important, l'action contre la corruption et l'action contre la drogue et la production d'opium en Afghanistan, pas encore diminuée et encore augmentée durant 11 dernières années.
Ouais, elle augmente d'année en année et ça fait de l'Afghanistan aujourd'hui le premier producteur et de loin d'opium dans le monde. Avant d'aller sur ces questions effectivement de corruption, de sécurisation du pays, puisque vous évoquiez la place des femmes dans la société afghane, c'était aussi un des motifs de l'intervention de fin 2001, mais c'était peut-être pas celui des militaires, mais enfin, en tout cas, c'était une question qui a été très souvent évoquée, la place des femmes dans l'Afghanistan post-Taliban. Je voudrais vous faire écouter justement un témoignage de cette époque-là. Nous sommes fin 2001, au moment de la conférence de Bonn. Écoutez, cette Afghane, elle s'appelle Nasifa, elle vit en Allemagne, elle fait part de ses attentes à Dominique André.
Femmes, hommes, enfants afghans, nous attendons enfin lueur d'espoir pour notre destin, enfin. Et bien sûr, vous savez que des Afghanes souffrent aussi, comme les Afghans, mais surtout les Afghanes qui souffrent depuis des années de leur destin. C'est quelque chose à laquelle je peux pas mieux. On ne peut pas, nous, les Afghanes, beaucoup d'Afghanes, on ne peut pas s'identifier à ce destin qu'ils nous ont imposé depuis des années, d'ailleurs.
Les femmes représentent en fait, 65% de la population afghane. Est-ce que vous pensez qu'elles seront représentées au niveau politique cette fois-ci?
J'espère qu'ils vont être re-représentées parce que les Afghanes étaient représentées il y a 30 ans, il y a 25 ans. On avait des ministres, des femmes ministres, on avait des femmes au niveau universitaire. Moi-même, je viens de l'université de Kaboul, donc pas seulement moi, mais on avait des centaines, des milliers de femmes afghanes actives dans tous ces domaines. Alors là, toute la femme afghane, ce n'est pas celle que nous voyons maintenant.
Bon, Raphaël Kraft, quand on parle de l'expérience de Radio sur Obi, une radio pour les Afghans, il faut l'entendre comment? Une radio pour les Afghans et pour les Afghanes, est-ce que vous avez pu rencontrer des Afghanes? Est-ce que vous avez pu les faire intervenir ou c'était quand même encore très, voire exclusivement masculin?
Je n'ai jamais vu d'Afghanes. Sinon, derrière mon fusil, lorsque j'étais en patrouille dans la région de Surobi. Il était impossible de faire venir des Afghanes à l'antenne de Radio Surobi pour des raisons évidentes que nous sommes dans une région à majorité agricole, particulièrement loin de la capitale, en tous les cas éloigné géographiquement par des gorges très étroites de la capitale afghane, donc avec une mentalité qui ne se prêtait pas à une révolution immédiate à l'antenne. Donc lorsque j'ai cherché des financements, etc., et dans tous les critères de financement, il était imposé des émissions avec les femmes, pour les femmes, etc. Ça n'était rigoureusement pas possible. Nous mentions pour obtenir ces financements. C'était impossible. Et Aziz Rahman, qui est ce qu'on appelle un libéral dans la vallée de Surobi, qui a été à l'initiative du premier lycée pour jeunes filles dans la vallée de Surobi, enfin lequel a combattu pour la cause des femmes en Afghanistan depuis plusieurs années, me disait non, Raphaël, on ne peut pas, on va y aller petit à petit.
Vous lui demandez de prendre sa famille en photo, d'ailleurs, sa femme n'apparaît pas.
Oui, et je n'ai jamais vu sa femme et je ne la verrai jamais. Lorsque je lui dis pourrait-on faire venir des femmes sur la base? Non, elles seraient considérées comme des traînées. Donc, on a mis en place une stratégie de pas à pas, c'est-à-dire d'une part à diffuser de la musique afghane. Il y a des stars de la chanson pashtoune pakistanaise, notamment, qui sont très écoutées en Afghanistan. Et puis, de les faire intervenir dans des reportages. Ici, une infirmière dans l'hôpital de Surobi. Ici, une femme politique qui va se présenter pour tenter petit à petit, et quand je dis petit à petit, c'est sur l'échelle de mois, voire d'années, avec la perspective un jour, effectivement, de créer une émission à destination des femmes. Et lorsque j'ai interrogé Aziz sur cette émission à destination des femmes, il m'a parlé de conseils de cuisine, de comment changer les couches, etc. Je lui dis non. Il m'a dit si. Il faut du temps avant que ça change.
Jean Damécourt, élection présidentielle, ce sera donc au mois d'avril prochain. Il y a 11 candidats, il n'y a pas de femmes. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous paraît totalement exclue aujourd'hui? Est-ce que malgré ce que l'on vient de dire, c'est plus facile aujourd'hui pour les femmes afghanes que ça ne l'était il y a 13 ans, c'est-à-dire avant la chute du régime taliban.
Ça, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute sur le sujet. Si vous voulez, il y a un nombre important de femmes au Parlement. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de femmes candidates est une régression. Lors des dernières élections présidentielles, il y en avait. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas, mais ça correspond à la réalité politique du pays. Ce qui vient d'être dit, je suis entièrement d'accord avec ça. Si vous voulez, on ne peut pas brusquer les choses.
Il va donc y avoir donc cette élection présidentielle en Afghanistan en avril prochain. Ahmad Majour, dans votre livre, vous dites notamment ceci: aucun dirigeant afghan depuis un siècle n'a réussi à créer une unité nationale basée sur les valeurs identitaires communes. Les Afghans ont souffert de l'absence de leadership. Alors, je ne sais pas si vous êtes tenu à un devoir de réserve, mais est-ce que vous considérez que cette phrase-là est toujours valable, que l'Afghanistan manque de leadership, et est-ce que un des problèmes de votre pays, puisque je le rappelle, vous êtes afghan, ce n'est pas d'avoir orienté le paysage politique vers une ethnicisation qui existait déjà, mais qui a peut-être été renforcée par le biais de l'intervention internationale?
Oui, je suis d'accord toujours sur cette phrase, mais on n'oublie pas que tous les dirigeants afghans depuis l'indépendance d'Afghanistan en 1919 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas réussi de créer une nation, état-nation. Tant qu'il y a une absence avec l'état-nation, on ne peut pas avoir un vrai leader ou un dirigeant qui pourra diriger un pays. Deuxième élément essentiel, qu'on n'a pas encore bien défini les intérêts nationaux des Afghans ou de l'Afghanistan, pour que chaque Afghan, la notion de la citoyenneté n'est pas bien définie non plus, pour que chaque Afghan ait un sentiment, être afghan et être fier d'être afghan.
Ça, c'est le problème. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on est d'abord pachtoun ou tadjik avant d'être afghan?
Malheureusement, dans certaines régions d'Afghanistan, ce genre de définition existe. Mais quand vous voyez sud, sud-est d'Afghanistan, définir cette question autrement qu'au nord d'Afghanistan, au centre-ville chiite Hazara. Moi, je suis les journaux, les médias afghans, on constate tous les jours, même quelquefois, il y a des gens qui, contre le terme utilisé, ils ont fait des manifestations à Kaboul. Mais c'est l'importance pour le dirigeant afghan de bien définir d'abord les intérêts nationaux, deuxièmement, comment on peut avoir une unité nationale, et comment on peut prévoir pour tous les Afghans, comme un citoyen, des droits et des devoirs.
Au moment où je vous posais cette question de savoir si on se considérait d'abord comme appartenant à l'ethnie pachtoune ou l'ethnie tadjik, pour ne parler que des plus importantes en nombre, et Raphaël Kraft et Jean Damécourt faisaient non du doigt. Raphaël Kraft et Jean Damécourt.
Ce ne sont que quelques exemples qui m'ont fait m'interroger justement sur la prévalence de l'ethnie en Afghanistan. Je pense les poètes de la Choura des poètes passaient leurs après-midi, ils venaient tous les vendredis après-midi à Radio Surobi déclamer leur prose, et c'était en majorité, quand ça ne parlait pas d'amour, ça parlait du nationalisme afghan, de l'unification, du drapeau, de la fierté, au contraire, d'être afghan.
Extrait justement lors de cette choura des poètes: que les pachtounes, les tadjiks, les baloutches, les ouzbeks, les hindous et les sikhs, que tous s'unissent sous un seul nom, l'afghan. Voilà, c'est un extrait d'une des poésies qui est lu à l'antenne de Radio Surabi.
Et puis, le sport, le cricket, depuis le retour en partie des réfugiés afghans au Pakistan, qui était un sport anglais importé au Pakistan, le cricket est devenu le sport national afghan depuis la chute du régime taliban. Nous avons, à l'image du journal Loto, avec le Tour de France au début du XXe siècle, à Radio Surabi, organisé un championnat de cricket dans la région de Surabi. Et il y avait des drapeaux afghans étaient levés. Lorsque l'Afghanistan bat l'Inde, le Sri Lanka ou le Pakistan au cricket, c'est une véritable ferveur nationale, et en football également.
Jean Damécourt, donc est-ce que vous seriez d'accord pour dire oui, il y a un sentiment national, mais ça ne suffit peut-être pas à ce qu'il y ait un État afghan, un État-nation?
Oui,
c'est pas tout à fait la même chose.
Moi, je voudrais nuancer ce qu'a dit le docteur Ahmad Majour. Parce que je suis entièrement d'accord avec lui sur le fait que ce qu'il a dit, en gros, c'est qu'il manquait une vision politique à ce pays. que l'élite a certainement échoué à définir. En tout cas, Karzai, qui est un pur tacticien, sans aucune vision, remarquable tacticien politique, mais pas du tout un visionnaire ni un homme fort.
Et qui continue à l'être dans la perspective de la présidentielle. Même s'il ne se représente pas, il place ses hommes.
Oui, enfin, en tout cas, il essaie surtout de défendre ses intérêts et ceux des siens. Donc, ça, je suis d'accord. Mais en revanche, je serais très nuancé sur l'idée d'une nation afghane. Je pense qu'au contraire, il y a un sentiment très fort d'appartenance à la communauté afghane, mais qu'il faut ensuite nuancer ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est moins vrai des Pashtuns, surtout les Pashtuns du Sud. En revanche, pour les autres ethnies, elles ont le sentiment d'appartenir à une communauté. D'ailleurs, le mot afghan, quand vous demandez à quelqu'un à Kaboul ce qu'il est, ce qui est une question très mal élevée d'ailleurs, il vous répond sans hésiter « je suis afghan ». Alors vous savez immédiatement, si c'est un Hazara, ça se voit, donc c'est pas trop difficile, mais en revanche, si c'est pas un Hazara et que c'est quelqu'un qui vous dit ça, vous savez immédiatement que c'est un Tadjik. Parce que les Pashtuns auraient tendance, surtout les Pashtuns du Sud, à vous dire « je suis Pashtun ». Mais cela étant, ils ont le sentiment d'appartenir à un pays. Et ce pays, c'est l'Afghanistan, et il y a bien un sentiment national. Puis l'autre chose qui doit le nuancer, c'est ce qui se passe dans la réalité des territoires. C'est quand même un pays extrêmement morcelé, c'est un pays de montagnards. Une très grande partie de la population reste rurale, n'a même pas jamais été dans une grande ville. Et donc évidemment pour eux, c'est essentiellement ce qui compte, c'est ce qui se passe dans leur vallée, et ce qui se passe dans la vallée d'à côté ou ailleurs, ça les intéresse qu'à moitié.
Pays morcelé et pays toujours en guerre, avec une insurrection talibane qui reste encore extrêmement vive. Est-ce que le chemin vers cette nation afghane, ce qu'on appelle l'afghanisation, je crois d'ailleurs que c'est Bernard Kouchner qui est l'auteur de ce terme, est-ce que ça passe forcément, d'après vous, Jean Dabécourt, par une réconciliation, en tout cas par une intégration des talibans dans le prochain pouvoir politique du pays?
Alors, c'est difficile de répondre à une question aussi complexe en une phrase, mais la réponse pour moi est clairement oui. Il y a un point absolument essentiel en ce moment, c'est la négociation avec les talibans. Et la négociation avec les talibans, ça veut dire quoi? Ça veut dire la négociation avec l'insurrection Pashtun. C'est ça que ça veut dire. Et on ne peut pas imaginer qu'il y ait une grande stabilité dans ce pays et un arrêt de la guerre civile qui existe de fait depuis 2001 sans qu'il y ait une négociation réintégrant en partie en tout cas, parce que ce n'est pas sûr que la totalité du mouvement taliban participe à cette négociation ou l'accepte dans la communauté nationale.
Aman Majour, est-ce qu'il faut négocier avec les talibans? Est-ce que c'est ce que réclament les Afghans? Et si oui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu négocier en 2001, au moment de leur chute, c'est-à-dire au moment où ils étaient le plus faibles, plutôt qu'aujourd'hui, où ils sont particulièrement renforcés?
Sans doute. Le 2001, à la conférence de Bonn, c'était le bon moment. Même M. Akhtar Ibrahimi, représentant des Nations Unies, il a dit dans son livre, dans plusieurs conférences, que nous n'avons pas malheureusement réussi d'intégrer le Taliban dans cette conférence. Deuxièmement, le bon moment pour une réconciliation nationale en Afghanistan aux négociations avec les talibans était en 2003. C'est le moment où les talibans étaient très faibles. Malheureusement, le gouvernement afghan a commencé, ils ont fait la même erreur que Najibullah, le président du régime communiste. Ils ont commencé tardivement à négocier avec l'opposition armée. Aussi, maintenant, le gouvernement afghan ne parle pas d'une position forte. Sans doute, les Afghans attendent. La première préoccupation des Afghans aujourd'hui, c'est la question de la mise en place de la sécurité en Afghanistan, premier élément. Deuxièmement, améliorer leur situation économique sans perdre la valeur de la liberté de parole, travail, droits de l'homme, etc. Mais quand même, ils ont besoin d'une vraie réconciliation avec les insurgés. Le dernier point, ce que j'aime bien dire ici, il faut bien définir le terme de terrorisme. Qui est terroriste en Afghanistan? On ne peut pas réconcilier avec les terroristes. On peut négocier et parler, mais si on parle de réconciliation, il faut une commission indépendante avec les objectifs, avec un délai. Comment on peut avancer dans cette réconciliation? Pourquoi sans perdre les valeurs de la constitution actuelle d'Afghanistan?
Et si, Ahmad Majour, le retour de la sécurité et d'une forme de prospérité économique doit se faire au prix d'un retour des talibans, vous pensez que le peuple afghan, dans son ensemble, est prêt à prendre quoi, ce risque-là? Mais peut-être que ça n'est pas vécu complètement comme un risque. C'est vrai qu'on a eu tendance, et sans doute que c'est encore le cas, à énormément diaboliser les talibans, et sans doute d'ailleurs à juste titre. Mais on a du mal à comprendre que ces forces-là puissent envisager un retour au pouvoir dans votre pays.
Moi, j'ai une autre idée, une théorie qui dit que si une des parties ou des oppositions dans un système, à l'intérieur du système, on peut maîtriser bien, comme d'autres partis politiques islamiques étaient, ils n'ont pas beaucoup de différences idéologiques. Je parle, il y a certains partis ou dirigeants politiques islamiques qui existent à Kaboul. Ils ont et partagent certains, beaucoup de points de vue du Taliban.
Oui, mais étant donné
qu'ils sont dans le système, ils devraient respecter les valeurs, le code, les articles de la Constitution afghane.
Sauf qu'ils n'y sont pas dans le système, là, aujourd'hui.
Tant qu'il y a un système qui existe, heureusement, c'est la refondation d'État afghan. Et certaines institutions afghanes, c'est important. Ça, c'est une chose qui a porté avec les États internationaux en Afghanistan. À l'époque de Taliban, l'État, nos propres termes, n'existait pas en Afghanistan. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment... il faut bien définir les objectifs, les cadres bien définis, dans quel cadre, dans quel objectif on peut faire la réconciliation.
Raphaël Kraft, le retour des talibans, c'était une crainte qui pouvait s'exprimer parmi les auditeurs de Radio Sirobi.
On ne peut pas résumer le choc binaire entre une armée afghane et un gouvernement légitime et des talibans. Dans la région de Sirobi, en tout cas, et je pense dans beaucoup de régions d'Afghanistan, les talibans sont en appui d'une insurrection de jeunes, pour la plupart, qu'on va appeler les frères tristes, c'est-à-dire des gens qui, comme le rappelle Jean Damécourt dans son livre, qui sont souvent victimes d'expropriations arbitraires de leur terrain. Ce sont des gens qui sont en quête de sécurité. Hein. Ce sont des gens qui vont sur les crêtes parce que les autorités légitimes, corrompues, mafieuses, ne leur apportent plus cette sécurité. Et donc le retour des talibans, c'est un petit peu arbitraire, je trouve, comme terme. D'autre part, les talibans ont cette image près du peuple afghan qui est quand même celle de la sécurité. Puisque, enfin, il y a une forme de nostalgie chez certaines personnes, chez un certain nombre de personnes, justement, d'un temps où, oui, c'était dur, mais la justice de proximité était rendue, qui est un des gros problèmes aujourd'hui en Afghanistan. Et donc, voilà, et je ne pense pas qu'un retour des talibans puisse se faire de la même façon qu'il a pu s'opérer en 1996.
Jean Danécourt.
Moi, je ne crois pas du tout à un retour des talibans, d'abord parce qu'ils sont haïs dans le pays, ils ont laissé une trace, vraiment, quand ils ont gouverné, ça a été absolument détestable, et les gens en ont très mauvais souvenir. Ensuite, parce qu'ils représentent une petite minorité, c'est à l'intérieur de la population pachtoune, peut-être un tiers de cette population, disons 3 à 4 millions qui les soutiennent, surtout dans le sud. Et à l'intérieur de cette population, ça représente quoi, 35 000 combattants, c'est-à-dire quand même pas grand-chose. Et puis, de toute façon, ils sont irréconciliables. Ce sont des terroristes. Ce qui est indispensable, en revanche, c'est qu'on ne peut pas réintroduire un mouvement... la paix avec un mouvement terroriste sans pratiquer une politique de pardon. Mais il faut mettre des conditions. Et je crois que Ahmad Majour donnait exactement les conditions de façon extrêmement claire. Il faut qu'ils acceptent la Constitution et les institutions. Et deuxièmement, il faut qu'ils renoncent à porter les armes et à un lien avec le djihadisme. Voilà. Je crois que c'est essentiel. Il y a une dernière condition qui est extérieure et qui est très importante, c'est ce qui se passe actuellement au Pakistan. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit ce qui se passe en ce moment au Pakistan, mais c'est absolument dramatique. Le gouvernement Sharif est un échec absolument monumental et le Tehreek et Taliban est en train de d'étendre son action à l'ensemble du pays. C'est actuellement le Baloutchistan, les territoires, le Punjab et également le Sindh qui sont soumis à un terrorisme extrêmement violent qui vise en grande partie, mais pas uniquement, les chiites, et qui atteint absolument tout le monde. Le pays est en pleine destruction. Or, il faut voir que les Pakistanais, en fait, ont une attitude extrêmement ambiguë à l'égard des talibans, qu'ils soutiennent en grande partie au travers de leurs services de renseignement, parce que pendant un temps, ils ont cru que c'était quelque chose qui leur permettrait de garder une influence sur l'Afghanistan.
Il n'y a pas que les Pakistanais, d'ailleurs, qui ont sans doute une attitude ambiguë, en tout cas intéressée à l'égard de l'Afghanistan. On ne peut pas, quand on parle de ce pays, Ahmad Majour, en parler comme un pays qui vivrait uniquement sur lui-même. Les grandes puissances qui sont autour ont des intérêts qui sont souvent contradictoires. Les grandes puissances, il y a la Russie, il y a l'Inde, le Pakistan, dont nous parlait Jean Damécourt, il y a la Chine, les États-Unis, ils n'ont pas de frontières, mais évidemment, ils sont extrêmement impliqués dans ce pays. Il y a l'Iran, donc il y a forcément l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça n'est pas ça qui conduit aussi à être, malgré tout, on voudrait bien être optimiste, mais malgré tout pessimiste, c'est-à-dire que les Afghans vont avoir du mal à prendre leur destin en main parce que les intérêts de leurs voisins sont là et qu'ils auront sans doute du mal à les surmonter.
Jocelyne, deux points importants dans cette question. D'abord, une phrase courte. Tant que le problème de Cachemire et de l'île du Rhin n'est pas réglé, on ne peut pas avoir un vrai paix en Afghanistan.
Voilà, la ligne du rang, alors ça, c'est, ça tout fait remonter à l'histoire encore plus lointaine, mais voilà.
Pakistan,
c'est la frontière qui est extrêmement controversée, arbitraire. On va dire, pour, et arbitraire.
Deuxièmement, il y a des rivalités idéologiques et stratégiques dans cette région. Et aussi, deuxième élément, c'est important, le Pakistan est le seul allié stratégique des Occidentaux dans cette région. Ils n'ont pas encore trouvé un autre alternatif que pour assurer l'intérêt stratégique, en particulier des États-Unis, dans cette région. C'est pourquoi, malgré qu'on a trouvé Bin Laden à Islamabad, à 30 km de capitale du Pakistan, mais malgré tout ça, on n'a pas vraiment sanctionné le Pakistan. Troisième élément aussi, Pakistan est victime du même phénomène qu'ils ont exporté vers l'Afghanistan. L'extrémisme des talibans. Et aujourd'hui, le Pakistan est victime du même phénomène qu'ils ont exporté vers l'Afghanistan.
Parce que ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que les talibans ont été élevés, ou en tout cas éduqués dans les madrassas au Pakistan, et qu'une fois revenus, voilà, ils ont tenté d'appliquer une politique qui n'était pas forcément justement adaptée à ce que vivaient les Afghans. Quasiment au terme de l'émission, je voudrais, alors je ne sais pas si on peut terminer sur une note un peu optimiste, mais puisque vous êtes tous les trois aujourd'hui à Paris, vous avez effectué de longs séjours en Afghanistan. Est-ce que c'est un pays qui vous manque aujourd'hui, Raphaël Kraft ?
Ouais, je crois que tout le monde sera unanime autour de cette table. C'est un pays qui marque tellement qu'effectivement, oui, c'est un pays qui manque. Je crois que vous pouvez être soldat humanitaire, journaliste, diplomate, etc. Vous restez marqué à vie par l'Afghanistan, oui.
Jordan Mécourt, c'est un pays qui vous manque. Et qu'est-ce qui vous manque particulièrement ?
C'est un pays absolument magnifique, bien sûr, mais c'est aussi un peuple absolument magnifique. Ce qui est frappant en Afghanistan, c'est l'épaisseur de la tradition, de l'histoire, de la civilisation. C'est vraiment un très, très, très grand peuple avec une très longue histoire. Et les gens sont incroyablement hospitaliers, extrêmement chaleureux. On noue des relations absolument formidables.
Ahmad Majour ? Alors, il vous manque moins forcément puisque vous y êtes souvent.
Oui,
vous
souvent,
y retournez quand
même,
d'ailleurs.
C'est mon pays, j'aime mon pays, j'aime mon peuple et je suis fier d'être afghan.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Ahmad Majour, l'Afghanistan en transition, une approche politique aux éditions de l'Harmattan. Jean Damécourt, diplomate en guerre à Kaboul et les coulisses de l'engagement de la France aux éditions Robert Laffont. Raphaël Kraft, Captain Teacher, une radio communautaire en Afghanistan, c'est publié chez Bûcher Chastel. Merci à tous les trois. Comme tous les jours, vos commentaires, c'est sur notre site franceculture.fr, la page de Grand Moudre. Réécoute pendant 1000 jours, les podcasts pendant un an. On se retrouve lundi, ce sera à partir de 18h20. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.